Alors, on va commencer à faire un nouveau shiur. Alors, Pirkei Avot, vous avez, si vous avez un livre, vous pouvez suivre. Qu'est-ce que ça veut dire Avot? Pirkei Avot. C'est Masechet Avot. Avot veut dire quoi? Les ancêtres, les parents. Pourquoi c'est les parents? Ce sont les paroles des sages. La transmission, la Torah orale qui était transmise par les sages. Et les sages, on l'appelle avot, shaal, élèves dans le monde futur. Les parents, ils l'amènent dans ce monde. Et les chachamim mettent leurs élèves dans l'autre monde. C'est pour ça, il y a une mitzvah de respecter les parents. Il y a une mitzvah de respecter le maître, avot. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, transmission par génération. Donc ça, c'est le nom de la Maseret, Avot pluriel, Av, Avot, parce qu'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de Chachamim. Dans chaque génération, il y a une grande quantité de Chachamim, tous transmis d'une manière ou d'une autre. Grands Chachamim, des petits Chachamim, sont tous transmis la Torah. Si on va collecter tous les sages de toutes les générations, les d'une autre génération, de la dernière, d'avant-dernière, génération par génération, dans chaque pays, dans chaque ville, on arrive à un chiffre phénoménal. Tous sont considérés pour nous comme des parents. Alors, on va commencer la Mishnah. Moshe kibel Torah mi Sinaï. Ou Mesara Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Du Sinaï. C'est-à-dire quoi, du Sinaï? De ce qui est apparu au Sinaï, de Dieu. Il a reçu la Torah de Dieu. Pourquoi on ne nous dit pas le mot Dieu? Parce que c'est marqué dans le Chumash. Le Pirkei ne veut pas nous raconter ce qui est marqué dans le Chumash. On voit après dans la Mishnah, Ben Chameshanim la Mikra, Ben Esor la Mishnah, Ben Shlosh Esrei la Mitzvot, Ben Chamesh Esrei la Talmud. À 5 ans, on commence à étudier le Mikra, ça veut dire le Tanakh. Et bien, Esser la Mishnah. À 10 ans, on fait les Mishnayot. Et à 15 ans, on fait Talmud. Ça veut dire, ça suppose que quand on commence à faire la Mishnah, tu connais le Tanakh. La Mishnah, elle est faite d'une sorte que la Torah écrite, on fait de 5 ans à 10 ans. Et après, on commence la Torah orale. Donc, on ne va pas nous raconter comment j'ai reçu la Torah de Dieu. Ça, c'est marqué dans le Chumash. On nous dit que Kibel Torah mi Sinaï pour nous dire qu'il a tout reçu du Sinaï. Ça veut dire quoi? Il a reçu tout du Sinaï pendant les 40 jours qui étaient à Sinaï, les Klalim. Et après, les Pratim. Les détails étaient inclus dans les Klalim. Klal ou Prat. Pendant les 40 jours, et après du Ohel Moed, pendant que l'Ohel Moed, il était encore pendant 50 jours, on avait déjà vu du Perosh Chodesh Nissan jusqu'à Ovin Iyar, le Mishkan était toujours campé à côté de Har Sinaï, Hachem lui a parlé dans ce Ohel Moed. Et après, ils ont parti 40 ans, mais tout était inclus dans ce qu'il a enseigné, les entendu dans les premiers 40 jours. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Umesara Yoshua, l'origine de la Torah, c'est le Sinaï. Umesara Yoshua, il a transmis à Yoshua. C'est-à-dire quoi, il a transmis à Yoshua? Il a transmis à tout le peuple juif. Il y avait beaucoup de sages. Il y avait les 70 sages, il y avait beaucoup d'autres sages, des grands, des petits, et tous les juifs. Il a transmis la Torah à tous les juifs. La Mishnah nous dit qu'il a transmis à Yoshua comme s'il avait un élève. Bien sûr, il n'avait pas qu'un élève. Mais lui, il connaissait tout. Lui, c'était l'élève le plus assidu. Yeshua ben Nahar, lo yamish mitocha ohel. Même pendant que Moshe il a quitté l'Ohel Moed qui était en dehors du Mishkan depuis les Egel jusqu'à la construction du Mishkan. Où Moshe Rabbeinu est campé en dehors du camp des Juifs, comme marqué dans Parsha Kitissa. Et Hachem lui a parlé là-bas, et après Moshe Rabbeinu, il est revenu, Il a mis un masque sur son visage. Il est venu chez les Juifs et quand il enseignait, il a enlevé le masque. Quand il avait terminé d'enseigner, il a remis le masque et il est revenu chez lui à la maison. Il était en dehors d'Oelmoued. Et pendant qu'il enseignait aux Juifs, comme la Gemara dit dans Hérovine, il a enseigné à Aaron, ses enfants, aux Skénim et à tous les Juifs. Mais pas à Yeshua ben Nun. Parce que le texte dit, Yeshua ben Nun Nahar, lo yamish mitocha Oel. Yeshua ben Nun, il est resté dans l'Oel Moed. Lui, il a préparé les cours, il a révisé. Tout de suite que Dieu donnait un shiur à Moshe, tout de suite Moshe l'a transmis Yeshua, avant de quitter sa tente. Et après, il est parti chez les Juifs enseigner aux Juifs. Yeshua était le premier, quand c'était tout fraîche, la fraîcheur du shiur. C'est pour ça, quand Moshe est monté à Arsina et 40 jours, Yeshua l'a accompagné, il a attendu les 40 jours en bas. Pourquoi il a attendu en bas? Pour recevoir Moshe quand il descend. Il voulait tout fraîche. Dès que Moshe est descendu, tout de suite il a transmis à Yeshua ce qu'il a entendu. Toujours Yeshua était le premier, donc il a capté le plus Yeshua. Lo yamish mitocha Oel. Il n'a jamais quitté le Oel. Donc ça c'est Messara. Il a transmis la Torah à Yeshua Binoun. Et après, Moshe Rabbeinu, il est niftar, Yeshua ben Nun est devenu le chef. Et qu'est-ce qu'il a transmis donc? La Torah écrite et la Torah orale. Toute la Torah orale, il a transmis. Et la Torah orale, elle est composée par des halakhot, le pirouche de chaque mitzvah. Il y a 613 mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah du Chumash qu'on peut bien saisir les détails, pas l'explication orale qui est autour. La Torah nous dit de faire une souka, mais il faut savoir comment on fabrique une souka. C'est quoi une souka? C'est comment on fait la mitzvah de souka? Comment on la fabrique? Quelle est l'hauteur? Quelle est la largeur? Avec quoi on fait le srach, les murs? C'est quoi habiter dans une souka? Habiter, ça veut dire quoi? Qui doit habiter? Il ne doit pas habiter. Chaque mitzvah, il a beaucoup, beaucoup de détails. La mitzvah nous lui fait des tzitziot. Alors, c'est quoi les tzitziot? C'est comment on fait les tzitziot? Avec quoi on fait les tzitziot? Qui doit les faire? Comment ils sont composés? Il y a chaque mitzvah et mitzvah. La Torah nous dit, Shabbat, ne travaillez pas. Ceux qui travaillent Shabbat, il est condamné à mort. Oui, mais ça veut dire quoi, travailler? On est condamné à mort. Pour quelle chose? Il faut définir. La Torah ne le définit pas. Elle nous dit, ne travaillez pas. Alors, il y a une Torah orale. Il y a des choses qui ont une allusion dans le texte. 99% des halakhot de la Torah orale, ils trouvent leur appui dans le texte et il y a une transmission qui était transmise par cœur. Ça, c'est un de Messara. Il a transmis cette Torah orale. Elle est donc composée par l'explication de chaque mitzvah et aussi l'explication de l'histoire de la Torah, les détails de la Torah. Torah nous raconte avec peu des mots, beaucoup, beaucoup de choses et chaque mot, il y a une explication, des explications, beaucoup d'explications. Tout ça, ça a été transmis. Ce qui n'était pas transmis, on peut trouver tout seul. Il y a des règles, comment on peut trouver, comment on fait drasha. S'il s'oublie, il y a une halakha qui s'oublie, on peut en principe le retrouver par les midot shatorah nidreshet bahem. Et les règles, comme on déduit du texte une halakha, zera shabab, binyanav, kal vachomer, taloprat, prat ou klal, ces règles aussi étaient transmises. Mais à part des halakhot, étaient aussi transmises les idées de la Torah, l'éducation, le moussard, la hirat, les qualités, ce qui fait que l'homme y réussit, ce qui fait que l'homme réussit pas, les paroles dans Pirkei Avot, tout ce qui est marqué dans Pirkei Avot, Moshe l'a reçu. C'est marqué dans Pirkei Avot, sur Chacham il a dit ça, sur Chacham il a dit ça, sur Chacham il a dit ça. Toutes les paroles, ces belles paroles qui sont dans Pirkei Avot, ce n'est pas ces Chachamim qui l'ont inventé, ils ont reçu de Moshe. Mais Arsinaï qui l'a transmis. Et pourquoi toujours Le Chacham dans Pirkei Avot, il dit Rabbi Akiva, il dit Rabbi Tarfon, il dit Rabbi Gamliel, il dit Rabbi Elazar ben Azaria, dit. Ça veut dire qu'eux, ils ont pris ce slogan qui a conduit, avec lequel ils ont conduit leur génération. Dans chaque génération, il faut mettre. Dans chaque génération, il faut mettre. Dans chaque génération, il faut mettre le viseur sur une autre chose. Il y a des faiblesses, des forces dans chaque génération. Et le maître de la génération, les maîtres de la génération, ils doivent détecter quel est le point qu'il faut souligner. Et il faut répéter beaucoup. Quand on dit « Hu haya Omer », en Pirkei Avot, on dit « Lui, il a dit », ça veut dire que lui, il a répété. Il a dit toute sa vie. Ça, c'était son message pour les gens de sa génération, parce qu'il a vu dans sa génération qu'il y a des gens qui avaient besoin plus spécialement tel était l'enseignement. Donc, lui, il a dit ça, il a répété ça toute sa vie. Mais en vérité, tout ce qu'il disait, tout venait de ce qu'ils ont entendu de Moshe. Moshe kibel Torah misena umesaral Yeshua, donc il a transmis à Yeshua Binoun. Yeshua Binoun, il était le chef du peuple juif combien d'années? 28 ans. C'est 82 ans. Il est devenu le chef. Il avait 42 ans quand il est sorti d'Égypte. 40 ans dans le désert, ça fait 82 ans. Et Yeshua Binoun, il a vécu 110 ans, marqué dans le Tanakh. Donc, il a été le chef du peuple juif pendant 28 ans. Mais Sarah le Yoshua, mais il était le chef politique, il était comme le roi. C'est lui qui disait, c'est lui qui a géré les guerres pour conquérir Israël, et il était le plus grand Talmid Chacham. Et il a transmis le plus grand Talmid Chacham. Il y avait des gens comme lui aussi, Elazar à Cohen, le Cohen Gadol. Il y avait Atniel Ben Knaz, le gendre de Caleb Ben Yefouné. Et les autres Gadolim, il y avait beaucoup. Yeshua les Zkenim. Yeshua a transmis la Torah aux Zkenim. Donc, quels Zkenim? Les anciens, les sages. Dans le Chumash, il est marqué que Moshe l'a enseigné aux Zkenim, et la Zkenim Amar. Shivim Zkenim. Il y avait au début, à la sortie, il y avait Shivim Zkenim. Quand ils sont rentrés en Israël, Yeshua ben Nun aussi, il y avait des Zkenim. Quand Moshe il a mis la main sur Yeshua et il lui a donné la smicha, aussi il est marqué devant les yeux des Zkenim. Quand à la fin des 40 ans, Moshe Rabbeinu il a fini d'écrire la Sefer Torah, il a donné Kohanim Bnei Levi et c'était devant les Zkenim. Donc ces Zkenim, ils ont entendu la Torah aussi de Moshe. Mais on nous dit ici, Yeshua, il a donné aux Zkenim. Alors ces Zkenim, ils avaient peut-être le même âge que lui, mais lui connaissait un peu plus qu'eux. Parce qu'il était toujours à côté de Moshe. Donc, même avec toute la politique en Eretz Israël, qu'il était obligé de gérer, il a transmis la Torah aux Zkenim. Aux Zkenim, la Nevi'im. Et les Zkenim, ils ont transmis aux prophètes. Alors, qui sont ces prophètes? Ça veut dire quoi, ils ont transmis aux prophètes? Yeshua aussi, il était prophète. Moshe, c'est le plus grand prophète. Moshe, c'est le plus grand. Yeshua, ben, on était prophète. Et entre Yeshua et les Nevi'im, il y a ici Zkenim. Ces Zkenim aussi, ils avaient Ruach HaKodesh. Mais Kanire ne compte pas parmi les Nevi'im. Les Zkenim, c'est encore plus grand. C'était les Zkenim, c'est qu'ils connaissaient encore Moshe. Ils sont tellement hauts, ils connaissaient encore Moshe. Et après, on dit qu'ils ont transmis aux Nevi'im. Qui était Navi? Eliyahu Cohen était Navi, Shmuel était Navi, David ou Shlomo, ils étaient Nevi'im. Et après, Nathan Hanavi, Gad Hachosé, il y avait beaucoup de Nevi'im, Eliyahu Navi, tous les Treyassar. En vérité, la Gemara nous raconte qu'il y avait 1 200 000 Nevi'im chez les Juifs. Et la majorité, ils ont vécu de l'époque, depuis la naissance de Shmuel Hanavi, jusqu'à la disparition d'Elia Navi. Ça, c'était la grande époque de prophétie. Shmuel Hanavi, dans le Shema de Shmuel, il était très grand, c'est un grand grand récepteur de prophétie et toujours le grand de la génération. Il donne, il a influence pour les autres de la génération. Shmuel Hanavi est une grande neshama. Moshe Aaron Bechoanav, ou Shmuel Bechore Shemu, était équivalent d'une certaine manière à Moshe Aaron. Il a amené de Nevoa, son père aussi était Navi Shmuel. Son père Elkana était prophète. Sa mère Hana, elle était prophétesse. Une des sept prophétesses. À l'époque d'Elkana, il est marqué Minah Ramataim Tsofim. Tsofim, c'est des prophètes. Ramataim, c'est Mataim. Echad mi Mataim Tsofim. C'est-à-dire, Elkana faisait partie d'un groupe de prophètes, 200 prophètes. Un des 200 prophètes à l'époque d'Elkana. Mais après, il y avait beaucoup plus. Depuis que le Navi est né, depuis Shmuel Hanavi est né, il y avait beaucoup, beaucoup de prophètes. Mais nous, nous avons seulement le nom de 48 prophètes. Nous avons les paroles de 48 prophètes. Comme la Gemara nous dit, « Nevoa sheutzrecha ledorot nichteva »« Nevoa shelo utzrecha ledorot lo nichteva » Une prophétie qui était importante pour les futures générations, elle a été écrite. Une voix qui n'était pas plus importante pour les futures générations, c'était des choses locales, c'était des choses pour le moment, elle n'était pas écrite. Si on a transmis oralement, on a transmis, sinon, c'était local, c'était pas si important. Les paroles importantes pour toutes les générations, c'est ça qui était écrit que nous avons dans les paroles des prophètes, dans Sefer. Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Divrei Hayamim, Yishai, Yirmiya, Yechezkel, tantôt dans le Tanakh. Alors, les Nevi'im, donc génération après génération, les Nevi'im, ils ont transmis la Torah. Ils ont transmis, les prophètes étaient des transmetteurs de la Torah. Il faut bien comprendre que le judaïsme ne fonctionne pas comme les ennemis du judaïsme imaginent le judaïsme. Quand on veut connaître quelqu'un, il ne faut pas demander les ennemis. Il faut demander les choses eux-mêmes. C'est autre chose. Les ennemis du peuple juif, les ennemis du judaïsme, et l'exemple, les chrétiens, ils ont fabriqué que chez les juifs, il existait des prophètes et des sages. Et les prophètes n'étaient pas, faisaient pas partie des sages. Et ils coupaient le peuple juif entre les sages et les prophètes. Comme si les prophètes, ils étaient en guerre contre le peuple et contre les sages. Et comme si les sages n'étaient pas proches des prophètes. Ça, c'est l'image tragique, catastrophique, hérétique, comment le christianisme regarde sur le peuple juif, sur le judaïsme. Or, c'est pas comme ça. Les prophètes faisaient partie des Chachamim. Ils transmettaient la Torah, c'est ça que la Mishnah nous dit. Les Nevi'im, ils étaient Moser la Torah. Yishai Anavi, Yirmiya Anavi, Echezkel Anavi, Amos, Micha, Hoshea, ils étaient le chef du Sanhedrin, comme il dit le Rambam. Ils étaient justement, ils faisaient partie des sages. Ils étaient à la tête des sages. Mais ils étaient tellement grands qu'ils ont eu le mérite d'avoir la prophétie. Et Dieu leur parlait. Et ils disaient de Moussar au peuple juif. Ils disaient de Moussar à tout le monde. Mais faisaient partie les prophètes et les sages. Ils travaillaient ensemble. Mais les prophètes, ils avaient quelque chose en plus. Mais la Torah, ils faisaient partie des transmetteurs de la Torah. C'est les Nevi'im, ils ont transmis la Torah. Les Nevi'im, mais se roule le Anshe Knesset Agdola. Donc, génération en génération, quand on dit les Nevi'im, et c'est les gens proches des Nevi'im aussi, les Chachamim aussi. Bien sûr, ce n'était pas que le Navi qui transmettait, mais le Navi était à la tête des transmetteurs. Il y avait des Yeshivot. Il y avait des chivotes pour prophétie. Talmidei de Nevoa, comme c'est marqué toujours dans la Tanakh. Des chivotes où on apprenait la Torah, de Bate Knesiot, de Bate Midrashot. On faisait le Kriyat HaTorah. Moshe Rabbeinu nous l'a instauré. Qu'on fait Kriyat HaTorah, Shabbat, et lundi et jeudi. Il a instauré qu'on fait 3 psukim. Après Ezra Sofer, il a ajouté qu'on fait 9 psukim minimum. Mais Moshe Rabbeinu a déjà instauré Kriyat HaTorah, donc il y avait déjà des Bate Knesiot, Bate Midrashot, bien sûr. Avant le Beit Rishon, à l'époque de Yeshua Binoun aussi, tout de suite on a instauré ça. Et partout, on a enseigné la Torah. Des grands, des petits hachamim, tout le monde a transmis. Mais la Mishnah nous dit, les prophètes ont promis, ils ont transmis. Comme on dit, Yeshua a transmis aux Zekenim. Yeshua a transmis aux Zekenim. Ce n'est pas que Yeshua. Les Zekenim, ils ont transmis à tout le peuple juif. Mais on parle ici du top du top. Le top de Messara. Dans le mot Messara, il y a un petit point. Moshe Kibel Torah Mesinaï. Il a reçu la Torah au Sinaï. Où Messara, il l'a transmise à Yeshua. Là, entièrement. Il a transmis entièrement à Yeshua. Yeshua, il a transmis entièrement aux Zekenim. Les Zekenim, aux Neviim. Et si il y avait une question qui se posait, tout le temps on se pose des questions. Après, il faut décider s'il y a une différence d'avis. On marche d'après la majorité. D'ailleurs, jusqu'à l'époque de Yossi ben Yoézer, c'était l'époque de Hanouka à peu près, jusqu'à Yossi ben Yoézer, les disputes, ils étaient toujours penchés par la majorité, comme la Torah nous raconte, on parle à Shoftim, que quand il y a quelque chose caché, qui est pas les Mouchadavar, ben dam le dam, ben din le din, ben neg la neg, adivret, l'autre bicherech, ben kam tabalit, tel me koma shimcha, hachem le kecha, et tu vas consulter les hachamim, ben akorhol asher yerucha, ceux qui vont t'enseigner, tu vas accepter. Donc l'installation de Chachmé à Torah, qui enseignait, qui décidait les décisions. Bien sûr, c'était depuis Moshe Rabbeinu, Yeshua Benoun, ça existait. Mais on nous parle ici, le top du top de l'enseignement, c'était Yeshua aux Zekenim, les Zekenim aux Neviim, et les Neviim, et Sarou, ils l'ont transmis de génération en génération, le Anshe Knesset Agdola. Jusqu'au arrive à Anshe Knesset Agdola, ça c'est les sages qui étaient pendant la construction du deuxième temple. Alors ici, dans cette Mishnah, on nous a sauté, on a sauté beaucoup de générations. Pourquoi? Pour raccourcir. Ça veut dire quoi? Il y a combien d'années? De Moshe, 40 ans dans le désert. Et depuis la mort de Moshe, jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash, il y a 440 ans. Depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la construction du premier temple, il y a 480 ans. Vahi, Bishnat, Shmonim Shana, Avar, Bamiot Shana, les sept bnei Israël, Meretz Yitzrayim, il y avait l'inauguration du premier Beth Amikdash. C'est-à-dire l'époque de Shoftim, de Yeshua, de Shoftim et de Shaul David Amelech, ça durait 480 ans. Après, il y a Shlomo Amelech, ils ont construit Beth Amikdash, donc ça a duré jusqu'à la destruction 410 ans. Donc, depuis la sortie d'Égypte, il y a 480 plus 410, ça fait combien? 400 et 400, ça fait 800. 890 ans jusqu'à la destruction. Après, il y a le Chorban du Beth Amikdash, il y a 70 années d'exil. Donc, on est à 960 ans. 960 ans après la sortie d'Égypte, les Juifs sont revenus en Eretz Israël. Alors, il y avait beaucoup de prophètes et beaucoup de sages. Des prophètes connus, il y a des gens qu'on connaît leur nom, Haggai, Zachariah, Malachi, Ezra, on connaît leur nom, Mordechai, Bilshan, il y a encore beaucoup d'autres prophètes, et ils étaient encore les premiers 40 ans, ça durait encore 40 ans, la prophétie, au moment de la construction du deuxième Beth Amikdash. Donc, l'histoire qui se passait, et le moussard qui se transmettait, nous avons dans le texte écrit dans le Tanakh. Là, le Tanakh ne le cite pas. Notre Tanakh, le Maseret Avot, n'est pas venu pour nous raconter le moussard qui est marqué dans le Tanakh. Parce que tu es censé de connaître. Le Pirkei Avot, ce Torah Shebaal Peh, on enseigne à ceux qui connaissent le texte. D'abord, tu fais le texte écrit. Donc, tout le moussard qui est marqué dans le Chumash, on connaît. Le Tanakh, on connaît aussi les histoires. Le moussard, c'est marqué dans la Tanakh. Donc, jusqu'au Anshe Knesset Gdola, eux, ils ont terminé d'écrire le Tanakh. Ils ont terminé Ezra Sofer avec tout son Bédin, tous les Chachamim. Ils ont mis le dernier coup de... depuis tous les Sefer Shoftim, le Sefer Melachim, Ils étaient transmis de génération en génération, mais ils ont fini, ficelé, encore, ajouté encore quelques petits détails. Et ils ont écrit le Sefer d'Ibrahim. Ils ont terminé le Sefer d'Ibrahim. C'était aussi transmis déjà. Ezra, il écrit son Sefer, Ezra Nehemia d'Ibrahim. Et c'était terminé le Tanakh. Donc, Pirkei Avot ne rentre pas dedans. Ça, tu es censé connaître. Pirkei Avot, ça nous enseigne les paraboles et le moussard, les maximes qui ne sont justement pas marquées dans la Tanakh, mais qui sortent du Tanakh, qui rentrent dans l'esprit du Tanakh, qui étaient aussi transmis, mais étaient transmis oralement, pas tout était écrit dans la Tanakh. Donc, mais ce voilà, Anshe Knesset Agdola, on les appelle Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée. Pourquoi ça s'appelle une grande assemblée? Pourquoi il y a une petite assemblée? Une grande assemblée. Normalement, un Sanhédrin est 70. Eux, ils étaient 120. Ils ont pris certaines décisions, ils ont pris les 120 ensemble. Par exemple, quand ils ont fait le texte de la Tefila, les 18 brachot, ou le Kiddush, la Havdalah, c'est une takana, à ce moment-là, ils étaient 120. 120. Normalement, c'est 70. Mais il était aussi, ce n'est pas que 70, le Sanhedrin Lishkat HaGazit. 70 Chachamim est devant eux. Il y a trois rangées des sages. Et ces rangées, chacun, il y a 23. 3 fois 23, ça fait 69. Et 69 et 71, ça fait combien chez les Juifs? 71 Chachamim, 69 Talmidim devant eux, ça fait combien? Ben 140. Donc, normalement, l'Ishkategazit, il y avait même 140 Chachamim. Alors, en tout cas, c'était 120. Pourquoi on les appelle Knesset HaGedola, la grande réunion? Une grande réunion. Parce que tous les Juifs, ils étaient présents, tous les sages, ils étaient présents. L'Agma nous dit que le mot Gedola vient aussi du mot parce que Hakel, Hagadol, Vahagibor, Vahanora. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il parle dans le Chumash, Hakel, Agadol, Agibor, Vanara, Shalo Isapanim. Il est Gadol, il est Gibor, il est Nora. Mais après, Yirmeya Navi, il a vu que le Chorban du Beth Amikdash, il a dit, c'est difficile de dire Gibor Venora. C'est très difficile. Comment tu peux dire Gibor Venora? Gibor Dieu, il est costaud. Et il a laissé détruire son Beth Amikdash. Nora, c'est-à-dire tout le monde, il a peur de lui. Mais Dieu, il a laissé détruire sa maison. Il a laissé les Juifs exilés. Il n'est pas Nora. On voit que les Goyim n'ont pas peur. Ils ont dit, on ne peut pas mentir devant Dieu. On ne peut pas dire dans la Tfila, Gibor, Venora, quand nos sentiments ne sont pas ils ne sont pas sensible à ces paroles. Ils ont dit, quand on fait la tefila, on ne dit pas Gibor Venora. On dit Anshe Knesset Gdola, ils sont venus. Ils ont dit, oui, on peut oui dire Gibor Venora. Hen Hen Gvurotav. Maintenant, dans les 70 années d'exil, nous avons vu comment Dieu il est grand, comment il est puissant. Que quoi? 70 loups, ils n'ont pas pu manger la brebis. La brebis, ce peuple juif qui était éparpillé, est venu à Achashverosh, est venu Haman, avec tous les Amalekim qu'ils ont attendu le moment de Pourim de se déchaîner, ça ne marchait pas. Comment il est grand le berger qui a pu sauver sa brebis de la faim des 70 loups. Enhen Gvurotav, Enhen Orotav. Ils ont dit, aujourd'hui, on le ressent, comment Dieu il est puissant. Et ça, donc, ils ont dit, on va réinstaurer de dire Hakel, Hagadol, Hagibor, Vahanora. Et ça, c'est une des raisons. L'Agma nous dit pourquoi ça s'appelle Anshe Knesset Hagedola. C'est Gadol dans le sens, Gadol dont ils ont compris comment Dieu, il est terrible. On ne peut pas faire contre lui. Personne ne peut aller contre lui. Dieu nous protège. Et ça, nous pouvons ajouter, dans chaque génération, on peut ajouter, Nifla, comment tellement beaucoup des forces du mal veulent détruire ce qui existe dans le peuple juif, et ça ne marche non plus. Ça ne marche pas, impossible. Alors, Anshe Knesset Agdola, Hem Amrou Shelosha Dvarim, eux, ils ont dit trois choses. C'est-à-dire quoi, ils ont dit trois choses? Ils ont dit des millions de choses. Ils ont transmis la Torah, mais ils ont répété trois messages fondamentaux. Dans leur génération, il faut trois choses qui sont fondamentales, qu'il faut inlassablement le mettre dans la tête de chaque juif dans notre génération. Trois choses basiques. Quelles sont les trois choses basiques qu'ils ont dit? Soyez lente dans le jugement. Un jugement, il doit être juste. Une société où les juges sont corrompus, c'est une tragédie. Pourquoi eux, ils ont dit ça? Parce qu'ils se rappelaient encore ce qui était à la fin de l'époque du premier temple, Yirmiyahu Navi. Quand on prend les livres d'Yirmiyahu Navi, il a levé la voix contre les rois corrompus, contre les ministres corrompus, contre les juges corrompus, contre la corruption, l'injustice. Yeshaya Navi l'a déjà parlé. L'injustice, Avre Ganavim, Rotfe Shalmonim, et il n'y a pas Almanav Yatom, la veuve et l'orphelin n'est pas défendu. C'est les riches, les puissants, qui sont criminels, qui font leur loi. Et ça fait souffrir le peuple. Hein? Et ça, c'était à l'époque d'Yirmiyahu Navi. Donc, Anshe Knesset Agdola, ils ont dit, nous allons faire, mettons un changement. Maintenant, on va créer un État religieux qui est basé sur la justice. Et pour faire une bonne justice, il ne faut pas qu'elle soit expéditive. Elle sera lente. Il faut bien réfléchir qui a raison, qui a tort. Pas à faire vite. Et vous mettez badin. C'est la base de la société. Ils ont dit sur cette base, il faut construire le nouveau État juif. Vehemidu talmidim harbe. Et il faut hemidu mettre debout beaucoup d'élèves. Ça veut dire il faut enseigner à beaucoup d'élèves. Il faut que beaucoup de gens soient chachamim. Quel est le chidush? Parce qu'à l'époque du premier temple, il y avait des prophètes. Quand le prophète parlait, c'était du feu. Alors, po dvarai kaesh numashem. Voilà, les paroles de Dieu, c'est comme du feu. Quand Yirmiyahu Navi parlait, quand Yeshaya Navi parlait, même la maharetz, même l'ignorant, il tremblait. Quand Elia Navi parlait à Achav, il a transmis à Achav le malheur qui va le trouver. Achav, il a déchiré ses habits. Elia Navi, il a parlé dur avec Achav, le grand mécréant, le grand Oved Avodah Zarah. Elia Navi, il a parlé dur, il a déchiré ses habits, il se mit à pleurer, il a jeûné, le mécréant, mais il est devant le prophète, il tremble. Les prophètes, c'était du feu. Alors même la Maharetz qui ne connaît pas beaucoup, il n'a pas étudié beaucoup, il fait les mitzvot, mais comme tout le monde, eh bien, il tremblait. Anshe Knesset Agdola, il savait, nous sommes les derniers des prophètes. Après nous, ce ne sera pas la prophétie, il n'y aura pas ce feu. Alors, le judaïsme va se transmettre par l'érudition, par l'étude. Il faut qu'il y ait beaucoup d'élèves et il ne faut pas que des élèves qui sont demi-élèves, qui sont assis, il faut debout. Vehemidu, le ha'amid talmidim. Le ha'amid, ça veut dire il faut que les élèves eux-mêmes deviennent des grands chachamim qui peuvent transmettre. Talmidim harbe. Et le talmidim harbe, l'agma nous raconte qu'on enseigne à tout le monde parce qu'il y avait toujours une discussion. Est-ce qu'il faut enseigner la Torah à tout le monde ou qu'à une élite? Ça veut dire quoi, élite? Pas dans le sens riche. Élite, ça veut dire des gens qui ont des bonnes midotes, un comportement bien. Il y avait un machloque toujours. Est-ce qu'il faut enseigner à tout le monde ou qu'il y a des gens qui ont un bon comportement? Pourquoi? Parce que si tu enseignes à des gens qui n'ont pas un bon comportement, il y a une qualité et un défaut. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que peut-être ils vont faire teshuva, ils vont devenir bien. L'inconvénient, s'ils ne deviennent pas bien, c'est pire. Parce que la Torah, Si on la comprend, étudie, applique correctement, c'est Sam Chaim, c'est un médicament de vie. Et si on la comprend à travers, et si on ne se comporte pas bien, c'est Sam Mavet, c'est un poison. Avec la Torah, on peut devenir, c'est un poison, on peut devenir méchant, on peut tordre, on peut après contredire la vérité. Avec la Torah, on peut contredire la Torah. Donc, il y a toujours un danger. Il y a même un que Beth Shammai, Beth Hillel, pour leur époque, Beth Shammai dit, il faut choisir les élèves. Il ne faut pas enseigner à n'importe qui la vraie Torah, beaucoup de Torah. Un peu comme ça, globalement, mais beaucoup de Torah, il faut que les types, il est bien. Beth Hillel dit, il faut enseigner à tout le monde parce que beaucoup de gens, ils font de choix. Beth Shammai, ils ont dit, mais c'est dangereux. Alors, chaque génération, ça posait la question. Anshei Knesset Gdola, ils ont dit, dans notre génération, il n'y a pas de question. Dans notre génération, l'ignorance est tellement grande. Le texte, il dit, les Juifs sont revenus en Eretz Israël, il y avait une grande ignorance. À notre époque, il faut enseigner à tout le monde. Après, Beth Shammai et Beth Hillel, à l'époque de Rabban Gamliel, il est marqué, Rabban Gamliel était la famille des Hillel, mais il a pris la chita de Beth Shammai, il a choisi les élèves. Et quand Rabban Gamliel était remercié, on a Kafret, et Rabbi Lezer ben Azari est devenu le chef. Il est marqué, ils ont ajouté 400 ou 700 bancs pour faire rentrer tous les élèves qui ne pouvaient pas rentrer à l'époque de Rabban Gamliel. Ils sont tous rentrés. Rabbi Lezer ben Azari, il dit, à notre époque, il faut enseigner à tout le monde. Rabban Gamliel, il dit, non, non, il faut choisir. Alors, à l'époque d'Anshei Knesset Gdola, alors, Haemidu Tamidim Harbe, aujourd'hui, il faut enseigner à tout le monde. L'ignorance est trop grande et nous pouvons récupérer beaucoup, beaucoup de gens. Les gens qui ne se comportent pas bien, c'est par l'ignorance. Ils sont ignorants. Quand il y a l'ignorance, alors vas-y, enseigne à tout le monde et ils vont revenir à la Torah. Et Midu Talmidim Harbe. Vasu Siag la Torah et fait des barrières pour la Torah. Ça veut dire, ils ont fait beaucoup de takanot afin que les gens n'arrivent pas à transgresser la Torah. Ça veut dire quoi? Quand la Torah nous dit, il faut respecter Shabbat, il ne faut pas porter dans la rue, c'est assourd de porter dans la rue. Il est marqué dans le livre de Néhémia qu'il y avait des gens qui portaient dans la rue. Il y avait des gens qui faisaient du business, ils achetaient des poissons chez les goyim qui venaient devant Yerushalayim. Alors, les gens, ils étaient à Maratzim, il y avait des gens qui écrasaient des raisins. Raïti Behouda, j'ai vu à Yehouda des gens qui écrasent des raisins. Et des gens qui font business et qui portent. Alors, Nehemia, il a dit, il faut comprendre des résolutions. Ils ont fait, par exemple, Zerat Nehemia. Ils ont fait, on n'a pas le droit de déplacer des klishmar toli isour. On n'a pas le droit de déplacer certains objets. On va le considérer comme interdit de déplacer, de peur qu'on va faire des travaux avec. Comme ça, ils ont fait beaucoup d'exérotes, associés à la Torah. Et à l'époque, plus qu'à l'époque de Nevi'im, à l'époque de Nevi'im, il y a le Navi. Devant le Navi, il a peur. Quand le Navi, il crie, c'est Shabbat, on tremblait. Et à leur époque, ils ont dit, il n'y aura pas de Navi pour crier. Donc, il faut que dans la vie, chacun, il s'éloigne. Donc, ils ont fait des takanot, associés à la Torah. Et ces trois principes-là qui sont marqués ici, ils ont martelé ces trois principes. Ça, c'est, ils sont marqués en vérité dans la lettre que Ezra Sofer a reçue de l'empereur perse. Nehemia, avant de monter à Yerushalayim, il était le chef des chansons de Darius, le roi des Perses. Et Darius n'était personne d'autre que le fils d'Esther Amalka. Esther Amalka avait un fils. Les gens ils disent que c'est des Achashverosh, mais ça tient pas dans les années, ça tient pas. C'était le fils de Mordechai. Elle était mariée avec Mordechai avant. Et ils ont fait un truc. Et après la mort d'Achashverosh, Achashverosh, il a régné 14 ans. Et l'histoire de Purim, ça s'est passé la 12e année, 13e année, tout de suite après il est mort. Après, il y avait peut-être un autre qui était au milieu. Et après, c'était Darius. Esther, elle a mis son fils. Il était sur le trône et Nehemia était le chef des chansons pendant de longues années. Ça veut dire, ils ont travaillé sur lui, Mordechai a travaillé sur lui. Il a préparé pour permettre aux Juifs de remonter en Eretz Israël et il a aidé. Et après, il a donné la fameuse lettre qu'il a donnée à Ezra Sofer. Il écrit, Darius, il écrit à Ezra Sofer, la lettre qui est marquée dans Ezra. Je te demande à toi, à Ezra, de nommer des juges dans tout Eretz Israël. Et tu vas obliger les Juifs d'être religieux. Et tu as tout le pouvoir absolu sur les Juifs. Et les conduire dans les lois de ta religion, religion de ton Dieu. Tu vas faire des juges et tu vas instaurer que tout y marche religieusement. Et tu vas demander aux gens de payer des impôts au roi perse. Ça, il n'a pas oublié. Ça, il fallait le dire. Il faut respecter parce que sinon les goyim, ils n'auraient pas accepté que les Juifs y font. Que les Juifs ils font un État pour permettre que les Juifs font un État pour que l'Empire perse soit d'accord. Il fallait qu'ils soient soumis. Ils ont juré fidélité d'ailleurs à Darius. Ils ont juré de jamais lui faire un coup. C'est pour ça quand Alexandre le Grand il est venu en Eretz Israël, il a demandé aux Juifs de lui aider de gagner contre Darius. Ils ont refusé. Ils ont dit, comme Flavius raconte, ils ont dit: on ne peut pas vous aider. On a juré fidélité. C'est très à Darius. Ils sont très énervés. Malgré que Shimon HaTzadik, il a prié qu'Alexandre le Grand il gagne les guerres. Prier, il a prié, mais aider, il n'a pas aidé. Et Alexandre le Grand, il a menacé les Juifs. Ils ont dit, on a juré à Darius, on ne lui fait pas du mal, on ne va pas lui faire du mal. Après la mort de Darius, c'était déjà autre chose. Alors, ça, c'est. Donc, il était marqué dans la lettre que Darius, il a donné, Koresh Darius, c'est le même, il a donné à Ezra, tu instaures beaucoup des élèves, tu leur enseignes la Torah, tu vas faire la justice, et la justice est enseignée beaucoup, et le diriger dans la Torah, ce sont les trois choses qui sont marquées ici, dans la Mishnah. Et ça, Ezra, il a reçu cette lettre, parce que Néhémie, sûrement, il a demandé qu'on lui donne cette lettre. Ça lui a donné un pouvoir nommé par le roi perse pour gérer les Juifs comme il faut. Donc, ce sont les trois principes qu'Anshei Knesset G'dola, ils ont martelé tout tant qu'ils étaient en vie. Et après, bien sûr, ils ont transmis la Torah. Ils ont transmis la Torah au peuple juif. Mais ce roi, on parle toujours le Messirat à Torah. Ont transmis la Torah. Shimon HaTzadik, la deuxième Mishnah. Shimon HaTzadik, Hayam Mishiare Knesset Agdola. Il était Mishiare, parmi ceux qui restaient de Knesset Agdola. Ça veut dire après, un après l'autre, ils sont morts. Ils étaient des gens très âgés. Étant donné que les chefs d'Anshei Knesset Agdola, ils sont nés avant la destruction du premier temple. Daniel, Mordechai faisait partie d'Anshei Knesset G'dola, il marquait dans la Tanakh. Mordechai, Bilshan, et Mordechai, il est né plusieurs années avant le Chorban. Pourquoi? Pas seulement avant le Chorban. On dit dans Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ishimini, il y avait un juif. Asher Hogla Mirushalayim, Imra Gola Asher Hoglata, Im Yechonia Melech Yuda, Asher Hegla Nebuchadnezzar Melech Babel. Donc Mordechai faisait partie de ces gens-là qui sont partis en exil, pas au moment du Chorban, mais avec Yechonia Melech Yuda, quand Nebuchadnezzar il a exilé Yechonia. Or, le roi Yechonia, il est parti 11 années avant la destruction du temple, il est parti en Babylonie. Ça, c'était le grand miracle qu'Hachem il a fait. Que Nebuchadnezzar il est venu 11 années avant le Chorban et il a fait exiler 10 000 Charash et Hamasguer, les menuisiers et les serruriers. Giborei, Osei, Milchama, les costauds qui font la guerre. 10 000, Aseret Alafim. C'est quoi des serruriers? C'est quoi des serruriers Charash et Hamasguer? Serrurier et forgeron. C'est les Chachamim. Les Chachamim qu'on appelle Charash et Hamasguer. Et qu'eux, ils sont partis en exil. Les 10 000 plus grands Chachamim, parmi eux, il y avait Yechezkel Hanavi, il est marqué. Yechezkel 21e chapitre. Yechezkel faisait partie de cette groupe. Ezra faisait partie de cette groupe. Daniel faisait partie de cette groupe. Et ils sont partis en Babel, ils se sont installés, ils ont tout de suite commencé les Yeshivot. La Torah a commencé à fleurir avec Yechonia, les Yeshivot à Utsal. Et ils ont plusieurs endroits à Babel, deux endroits, deux grands endroits. Après les autres endroits, ils ont transmis la Torah. Donc, eux, ils étaient 11 années avant le Korban et jusqu'à la construction des Mikdash. Il y a 70 plus 11, ça fait 81. Et lui, il est parti, il était déjà parmi les Chachamim. C'est-à-dire que il avait au moins 20 ans Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai, il est venu après. Après l'histoire, il avait plus que 100 ans, plus que 110 ans. Daniel aussi. Il y avait Ezra Sofer aussi. Ezra Sofer aussi, il est né avant. Les sages, les premiers, ils étaient très âgés. Hachem, il a fait un miracle. Et les Juifs, ça existe comme ça, des Chachamim, des centenaires. Rabbi Eliashiv, à 100 ans, il avait toute sa tête. Rabbi Tzraïm aussi, il a vécu à peu près 100 ans. Il avait encore la tête jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de Chachamim, Hachem, il fait miracle. Et les gens qui ne s'usent pas, ils ne s'usent pas beaucoup parce qu'ils vivent une vie qui est saine. Et ils ont la tête, Baruch Hashem, jusqu'à la fin, si Hashem leur aide. Eh bien, ça, c'était un merveille qui a un Gdola. Ils étaient gérés par les vieux sages qui connaissaient encore la Torah du premier Beit Mikdash, qui fréquentaient encore les prophètes. Mais Shimon HaTzadik, Kaniré, il était plus jeune. Et Aya Mishiaré, les vieux, un après l'autre, ils sont niftar. Et 40 années après, le dernier des prophètes Niftar, il y a deux Guersot dans Seder Olam, ou 40 ans après la construction du Beit Mikdash, ils sont Niftar, les derniers prophètes. Shimon HaTzadik, Aya Mishiaré, Knesset HaGdola. Shimon HaTzadik, il était quoi? Il était le Kohen Gadol. Il était le Kohen Gadol et il était aussi le chef politique. Il était le chef politique. À l'époque d'Anshe Knesset Gdola, le chef politique, il était Zrumania, la tribu de Yehuda. Mais après, qu'on dirait que ça n'a pas continué à Malchut Beth David. Et le chef politique, après, ils étaient les Chachamim. On verra après comment ça fonctionne encore. Aya Mishiare Knesset Gdola. Il restait parmi la Knesset Gdola. Ou Haya Omer. Alors lui, il disait, Al Shelosha Hadvarim Haolam Omed. Sur trois choses, le monde tient. À la Torah, Val Ha'avoda, Val Gmilut Chasadim. Torah, c'est l'étude de la Torah. Val Ha'avoda, c'est la Avoda au Beit HaMikdash. Il y a après Avoda qui veut dire travail. Ça, c'est une autre chose. Kol Torah She'enima Malacha, Tofa Betila, ça c'est Malacha, ça veut dire un métier. Ici, Avoda ne veut pas dire un métier. Ici, Avoda veut dire la Avoda des Korbanot, le travail autour du Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, c'est quelque chose de très spécial. Ça, pour parler, expliquer qu'est-ce que c'est le Beit HaMikdash. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais il y a une grande partie de Seder Kotchim, Korbanot, qu'est-ce que c'est aussi dans Chumash, Korban, qu'est-ce que c'est un Korban? Bon, ça, il faut expliquer un sujet à part. En tout cas, l'étude de la Torah et le Beit HaMikdash, Val Gmilut Chasadim, sur ça, le monde tient. C'est-à-dire quoi le monde? Le monde, c'est-à-dire la société, les humains, l'État. Si nous voulons réussir à faire un État comme il faut qu'il y ait beaucoup de Torah, il y a beaucoup d'Avoda et beaucoup de Gmilut Chasadim. Ce sont les trois principes. Maintenant, Messarua, ils ont transmis la Torah. Mais ce sont les proverbes qu'il faut tout le temps se répéter, les bases. Ça, c'est ce que Shimon HaTzadik, il a donc transmis. Antignos, ah, il est 6 heures. Bon, on va continuer Bezrat Hashem demain. On va continuer demain Bezrat Hashem à 5 heures, comme aujourd'hui.